jusqu'à 14h. Histoire et patrimoine de Normandie avec Julien Cruet sur France Bleu.
Difficile de percer le mystère qui entoure les activités des francs-maçons. Pourtant, avec l'historien normand Emmanuel Thiébaud, on lève un peu du voile sur ces francs-maçons en prenant l'exemple d'une loge cannaise qui existe toujours d'ailleurs et qu'Emmanuel Thiébaud connaît bien. C'est la loge Thémis et chez elle, comme ailleurs, certains rituels tournent autour de la nourriture. Emmanuel Thiébaud.
Donc les rituels qui ont été créés et écrits dans les années 1720 en Angleterre, qui arrivent en France, comprennent dans une de leurs parties, et c'est aussi parce que c'est la façon dont les premiers maçons se sont réunis avant d'avoir un local propre aux origines de la franc-maçonnerie. Beaucoup se réunissaient dans les arrières-salles de cafetiers, de cabarets. Et donc, l'habitude de se réunir en mangeant a été, on va dire, conservée sous une forme de rituel et où qui va s'appeler dans le jargon maçonnique les agapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, lorsque les francs-maçons se réunissent, pour peu que ce soit le soir, ils restent ensemble après la réunion, ce qu'on appelle une tenue, pour manger ensemble, donc dans ce moment fraternel, d'agape au sens grec agapé, donc cette fraternité qui se continue. Et dans les rituels figure aussi une fois par an ce qui s'appelle un banquet d'ordre, c'est-à-dire que les francs-maçons mangent ensemble, mais de façon complètement ritualisée, avec une disposition qui ressemble à la disposition que les frères ont dans la loge, et avec des santé, donc des façons de porter des tosses qui sont portées de façon aussi très ritualisée.
Mais la tenue est particulière, les ustensiles sont particuliers, là, les couverts.
Là, non, c'est surtout la façon
de s'asseoir autour de la table.
De s'asseoir autour de la table, et le repas est rythmé par des prises de parole qui se font comme dans un temple normal. Et donc, on s'aperçoit donc que le bien boire et bien manger, comme on disait aux origines de la maçonnerie, a une importance énorme qui subsiste encore de nos jours. Mais à l'époque, on peut peut-être se dire que par le fait que se nourrir et bien boire est important, on s'aperçoit qu'il y a aussi des gens à l'extérieur, dans le monde profane, qui n'ont pas cette chance de pouvoir manger et boire
à leur faim et à leur soif.
Et donc, vont se créer, dès le XVIIIe siècle, avant la Révolution même, on voit se créer des sortes d'œuvres de bienfaisance qui sont entre la charité chrétienne, la philanthropie laïque, où on va essayer d'améliorer l'ordinaire des nécessiteux, soit directement en organisant des collectes, ou indirectement en subventionnant, on dirait aujourd'hui, des structures qui, elles, aident ces personnes nécessiteuses.
Ça existe à Caen avec les frères, donc les francs-maçons, d'union et fraternité.
Voilà, donc ça on le voit très tôt au XVIIIe siècle, où on les voit aussi, ces frères de cette loge-là, on les voit collecter des fonds après un incendie qui a eu lieu dans une paroisse, un quartier de Caen, au XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le vénérable, qui est pourtant un protestant...
Donc le chef de la loge.
Le chef de la loge n'hésite pas à aller proposer son aide au curé de la paroisse pour lui dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc on voit que là, on n'est pas du tout dans une guerre de religion, on est vraiment dans un climat beaucoup plus œcuménique. Et on voit aussi des dons qui sont collectés au moment de la guerre d'Amérique, à l'époque de Lafayette, à l'indépendance de l'Amérique. On voit des dons qui sont collectés en faveur des orphelins et veuves de guerre. C'est assez intéressant de s'apercevoir en fait que c'est quelque chose qui existe à l'époque. Et on voit donc des collectes qui ont lieu dans plusieurs loges de la région.
Et puis, plus proche de nous, au 19e siècle cette fois, la loge Thémis à Caen s'est lancée dans des œuvres de bienfaisance, sorte de resto du cœur avant l'heure. On en parle dans un instant avec Emmanuel Thiébaud.
Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fait le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool, ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Précipice. Du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros. Crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires. Tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir. Une blonde platine sur Hot Safin. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je dis ça me tend.
Et vous êtes rentré comment?
Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Que de pression dans les bars. C'est manie.
Calcomanie.
7h du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège. Je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylon qui filent sur le tendon. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc cassé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non, vraiment pas.
Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Sous mes pieds, il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Mon Dieu, je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se tapent, le petit ronron. Les éminents, les petits bateaux. Je me sens pas belle, les bigoudis sont plus en plus. Mon studio, j'aspirateur, la vie des gens fait un peu peur.
Madame Pipi a des ennuis, monsieur papa se fait du tracas. Dans les logis, les maladies, bébé fait lui s'abouillir.
8h du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Sur ce lit de mes draps bleus froissés, c'est insoumis, sommet cassé.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that
Ed Sheeran avec Photograph, 13h48.
Histoire et patrimoine de Normandie jusqu'à 14h avec Julien Cruet sur France Bleu.
Dernier épisode de notre enquête historique sur les francs-maçons normands. Avec nous, l'historien normand Emmanuel Thiébaud. Il a trouvé beaucoup d'archives sur une loge cannaise, la loge Thémis, et notamment sur son action en faveur des plus démunis à partir du 19e siècle. Emmanuel Thiébaud.
La structure la plus originale et la plus longue sur la durée, ça va être à Caen, donc la loge Thémis de Caen, encore elle, qui en 1846 va créer l'ancêtre d'une soupe populaire ou des Restos du Cœur, si vous voulez, qui va s'appeler l'œuvre maçonnique de bienfaisance, l'OMB. Et cette œuvre maçonnique va se structurer dans les années 1880. Et le but, c'est de distribuer gratuitement de la soupe tous les jours à midi, pendant les mois d'hiver, aux indigents qui se présenteront au local de l'association, assister à domicile les malades et les indigents, de leur fournir des médicaments, des vivres, des vêtements et de leur donner des soins médicaux. On est quand même dans une philanthropie là très avant-gardiste par rapport à ce qui peut se faire à l'époque et qui se substitue souvent au fait que quasiment personne ne fait plus cela depuis, il y a eu la sécularisation et la laïcisation en fait des institutions religieuses qui avaient ce rôle-là antérieurement, mais évidemment avec les lois de séparation des Églises et de l'État, il faut bien se substituer à ce qui n'existe plus.
Donc là, on voit que les francs-maçons, ils ne sont pas que dans la réflexion, à réfléchir
là, ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action.
Et ils viennent en aide à beaucoup de gens.
Ils viennent en... puisque en 1857, on a 21 600 rations qui sont distribuées. En 1871, c'est 234 familles comptant 451 personnes qui ont été nourries grâce à cet office maçonnique de bienfaisance. On va même, via cet office, ouvrir des livrets à des enfants dans des écoles, des enfants méritants mais qui viennent de familles modestes. Et il y a 66 livrets à la caisse d'épargne de l'époque, hein, de 5 francs qui sont distribués dans 22 écoles différentes. Donc on accompagne les gens mais on les aide aussi à s'en sortir. Aussi dans cette notion d'éducation populaire. On a même trouvé, sous cette appellation, des universités populaires qui ont été créées par des francs-maçons dans plusieurs villes. À Caen, on n'ouvre pas une université populaire, mais des francs-maçons, via la Ligue de l'enseignement, donc qui est très maçonnisée à l'époque, vont subventionner des cours de dessin et de mathématiques qui sont dispensés gratuitement plusieurs fois par semaine, par plusieurs frères de la loge, je les cite, pour rendre service à des jeunes qui ne veulent pas se laisser embrigader dans les organisations clérico-nationalistes.
Là, on est dans la guerre,
on a quand même,
avec l'Église
catholique. Il y a toujours le règlement de compte, mais à côté de ça, il y a quand même l'action concrète qui est effectuée.
Et là, l'œuvre maçonnique de bienfaisance à Caen, elle dure pendant très longtemps, en fait.
Alors, elle a vraiment une activité importante jusqu'à quasiment en 1937-38. Apparemment, il y a une tentative de la recréer parce qu'il y a un réel besoin à la Libération. Mais là, les archives et les sources manquent. Et en 1952, là, on ne voit plus du tout apparaître le nom nulle part dans les archives. Donc, on considère que cette tentative de le recréer après-guerre n'a pas pu s'effectuer. On est vraiment dans l'altruisme et dans le sens fraternel au sens large que les francs-maçons ont entre eux, mais veulent aussi répandre hors du temple, comme ils disent.
Dernière chose, la franc-maçonnerie, c'est source de fantasmes. Parfois, on se demande qui sont les francs-maçons. Mais quand on fait un travail d'historien, on arrive à retracer l'histoire de ces sociétés.
Oui, en fait, il y a beaucoup plus d'archives qu'on ne pense pour travailler sur cette catégorie d'individus au sein de la population. Des archives ouvertes et accessibles à tout chercheur, donc sans aucune restriction. J'ai d'ailleurs, pour pouvoir démontrer ce que je dis, publié l'ouvrage « Qui sont les francs-maçons ?», qui est une anthologie de textes qui permettent de comprendre et d'avoir une vision de la franc-maçonnerie en France des origines à nos jours, à partir uniquement de sources maçonniques qui sont soit publiques par des revues qui sont faites par des francs-maçons mais ouvertes au public, ou par des revues internes ou des archives internes à la franc-maçonnerie, des archives de correspondance de loges avec leur obédience, mais qui permettent de prendre la température différentes époques de l'histoire de la franc-maçonnerie sur ce qui peut se dire et se faire en loge. Et je pense que ça fait tomber beaucoup de tabous, de fantasmes sur cette prétendue société secrète ou secte maçonnique, je dis toujours que la différence entre la franc-maçonnerie et une secte, c'est que la secte, c'est très facile d'y entrer, mais vous avez beaucoup de mal à en sortir. La franc-maçonnerie, c'est peut-être un peu difficile d'y entrer, encore, j'en suis pas sûr, mais c'est très facile d'en sortir, en tout cas.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet de la franc-maçonnerie, on vous offre deux des livres d'Emmanuel Thibault, qui était notre invité toute la semaine. D'abord, Le musée secret de la franc-maçonnerie, paru aux éditions Grunt. Et puis, Qui sont les francs-maçons, paru cette fois chez Omnibus. Si vous êtes intéressé, vous allez sur francebleu.fr, notre site internet, francebleu.fr Normandie, Calvados, Orne. Il y a un formulaire avec un jeu concours. Vous vous inscrivez. Le tirage au sort des gagnants aura lieu cet après-midi. La semaine prochaine, 13h30, pas d'histoire et patrimoine de Normandie pendant les vacances scolaires, mais deux séries, d'une part Passeport pour l'aventure et d'autre part Tout oui, que puis-je faire pour vous ? France Bleu.